La première.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent de Hausset.
Nous sommes le 29 mai 1911 à l'université de Birmingham, au centre de l'Angleterre. C'est lors d'une conférence intitulée « Life and Consciousness », « La conscience et la vie » ou « Conférence Huxley » que Henri Bergson, philosophe français, futur prix Nobel de littérature, prononce ceci. Les philosophes qui ont spéculé sur la signification de la vie et sur la destinée de l'homme n'ont pas assez remarqué que la nature a pris la peine de nous renseigner là-dessus elle-même. Elle nous avertit par un signe précis que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie. Je dis la joie, je ne dis pas le plaisir. Le plaisir n'est qu'un artifice imaginé par la nature pour obtenir de l'être vivant la conservation de la vie. Il n'indique pas la direction où la vie est lancée, mais la joie annonce tout. Toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire, toute grande joie a un accent triomphal. Or, si nous tenons compte de cette indication et si nous suivons cette nouvelle ligne de fait, nous trouvons que partout où il y a la joie, il y a création. Plus riche est la création, plus profonde est la joie. Henri Bergson n'est pas le seul à réfléchir au sens et à l'essence de la joie. Nous allons aujourd'hui ajouter à ses réflexions celles de Nietzsche et de Spinoza. En 1864, le poète américain Ralph Waldo Emerson, dans ses Lois de la vie, écrivait « Rien n'embellit plus le caractère que le désir de répandre la joie autour de soi. » Alors pouvons-nous lui emboîter le pas avec nos trois philosophes ? C'est ce que nous allons voir.
La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie.
Et bien sûr, la jolie façon de Charles Trenet de chanter la joie pour évoquer donc ce qu'il reste encore aujourd'hui de joie malgré tout. Xavier Verhoekstraat est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « La joie, une spiritualité philosophique » qui est paru aux éditions Acaria. Et puis il y a une vision, des visioconférences, hein, puisque vous n'êtes plus en présentiel en ce moment, qui sont données au Matin de la Philo à Bruxelles. Et il suffit d'aller sur le site et on pourra retrouver le lien vers ces conférences. Alors aujourd'hui, Xavier Verhoekstraat, il est urgent de ne pas oublier la joie. Paul Valéry, poète, philosophe, mort en 1945, écrivait dans son ouvrage « La crise de l'esprit » publié en 1919 « Nous autres, civilisation, nous savons maintenant que nous sommes mortels. » Aujourd'hui, Xavier Verhoekstraat, avec la crise du Covid, c'est l'humanité tout entière qui sait qu'elle est mortelle.
Oui, il y a certainement beaucoup de défis actuels. On pense bien sûr au Covid, mais la crise climatique est encore plus importante et elle va durer plus longtemps. Donc ce qui est important, c'est de trouver l'énergie pour répondre à ce défi. Et la joie, c'est un exercice, c'est un combat, c'est une réponse par rapport aux défis qui sont lancés par la vie. Et ça a toujours été comme ça. On ne doit pas s'imaginer que nous sommes dans une situation tout à fait exceptionnelle. Tout au long de l'histoire, il y a eu des défis et qui ont été relevés et qui ont été analysés aussi. C'est pour ça que la philosophie dans l'histoire est intéressante, parce qu'on voit différents exemples et manières, et différentes manières de répondre aux défis qui se
proposent à nous.
Sont là.
Et c'est ce que nous allons voir avec vous, avec ces différents philosophes qui ont décrit l'expérience de la joie. Mais pour commencer, on peut tenter de différencier précisément bonheur, joie, plaisir. Quelles sont les différences ?
Oui, alors, c'est difficile de donner une définition. Et Kant, quand on lui demandait de donner une définition du bonheur, dit « Ah, moi, je suis incapable de donner une définition du bonheur. » Et je crois que c'est important de ne pas penser à définition, mais bien de penser à expérience, de s'appuyer sur sa propre expérience. Et en même temps, il y a peut-être des images qui peuvent nous aider. Je pense au plaisir, hein. Commençons par le plaisir parce que c'est le plus immédiat. Je pense à un verre de vin que l'on prend, c'est un désir immédiat qui ne demande pas de justification. Il est là, il est inscrit dans la durée, dans le présent, il n'y a pas de problème. Je pense au bonheur parce que souvent, Et les philosophes ont surtout parlé de bonheur. La philosophie grecque parlait plus de bonheur parce que le bonheur, c'est un équilibre. Et donc, c'est entre les deux, in medio virtus, c'est l'équilibre entre deux tendances. Et le bonheur a quelque chose de stable. Et c'est pour ça que, comme image, je donnerais la maison. Je suis dans ma maison est agréable, je suis bien. Voilà, ça c'est le bonheur. Et puis, la joie, c'est quand j'ouvre la fenêtre. Quand j'ouvre la fenêtre, quand je vais vers l'extérieur, mais que je vais vers l'extérieur ou vers l'intérieur aussi. C'est chaque fois une ouverture. La joie est toujours liée à quelque chose qui me dépasse et qui, en même temps, est une dynamique qui m'entraîne.
Alors, trois philosophes vont donc nous servir de fil rouge pour cette émission, des philosophes très différents les uns des autres. Donc Spinoza, né en 1632, Nietzsche en 1844 et Bergson en 1859. Des caractères, des milieux divers, donc, mais que l'expression de la joie réunit. Et d'ailleurs, Bergson disait « Je me sens bien chez Spinoza ».
Oui, alors ils sont vraiment différents, mais c'est vrai que Spinoza polissait des lentilles. Et je ne vois pas Bergson polir des lentilles. Donc, ce sont en même temps des histoires différentes, des caractères différents. Parce que Spinoza parlait de l'éternité et Bergson parlait de la durée. Et donc, ce sont des approches, par exemple, c'est un simple exemple, des approches du temps qui sont fort différentes. Et Nietzsche, bien sûr, c'est encore différent. Ce sont trois caractères fort différents et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de voir des approches différentes parce que ça ouvre des perspectives.
Alors, la joie, Xavier Verhoestraete, est-elle le reflet d'une vie facile? Rien n'est moins sûr. Et la biographie, justement, de ces philosophes nous montre que l'une n'est pas toujours la conséquence de l'autre. Par exemple, chez Spinoza, c'est une biographie très, très costaude, enfin très lourde.
Ah mais c'est extraordinaire. Quand on voit la biographie de ces philosophes, et puis on se dit qu'ils ont parlé de la joie, on se dit, mais c'est formidable. Ils ont réussi, malgré tout, avec tout ce qu'ils ont vécu, à parler de joie. Enfin, on peut prendre des exemples. Enfin, je ne sais pas si on a le temps.
Chez Spinoza, par exemple, c'est déjà à 6 ans une maman qui meurt, et puis la suite, c'est une série de tragédies encore.
Oui, alors j'ai quand même envie de. Il a été bon. Spinoza était un Maran, donc d'origine portugaise. C'est un immigré aux Pays-Bas. Hein. Et puis il faisait partie d'une communauté juive très soudée. Et puis, ils se sont disputés, sa communauté l'a éjecté. Mais je vais quand même vous lire un tout petit passage de ce RM, la fatwa, qui finalement chasse Spinoza, non seulement de la communauté, mais aussi de son travail. Il a dû quitter Amsterdam et aller habiter ailleurs parce que c'était tellement dur. Je vais vous lire simplement le début. « Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit pendant son sommeil et pendant qu'il veille, qu'il soit maudit à son entrée et qu'il soit maudit à sa sortie. » Enfin, et puis ça continue comme
c'est
ça.
C'est très violent. Ouais.
Et alors, c'est d'une violence extrême. Et puis on voit Spinoza qui parle de joie.
Et on verra ce qu'il aura à nous en dire tout à l'heure, parce qu'on va dire aussi un mot de la biographie des deux autres, Nietzsche et Bergson. Spinoza, qui verra aussi, puisqu'on est dans un contexte de guerre de religion, de tension beaucoup aux Pays-Bas, qui verra son ami massacré pour la foule. La vie, en effet, n'a pas été tendre non plus pour Nietzsche et Bergson. C'est ce qu'on va voir avec Xavier Verhoestraete.
Pour les psychologues, nous avons tous six émotions primaires, six émotions de base. Vous allez d'ailleurs les reconnaître. Il y a bien entendu la joie, la colère, le dégoût, la peur, la tristesse et enfin la surprise. Alors toutes ces émotions primaires, eh bien elles sont innées. Mais en plus de ça, elles sont automatiques, elles sont inconscientes. C'est un petit peu comme des réflexes. Tu sais quoi, Jamy ? Il paraît que très souvent on les exprime pour se protéger face à une situation d'urgence.
Absolument. Prenez la peur, par exemple. Elle en a sauvé plus d'un. Ça fait belle lurette qu'elle permet à l'homme de fuir face au danger.
D'accord, Jamy, mais je vois pas tellement en quoi la joie, ou la tristesse d'ailleurs, servent à nous protéger.
Et pourtant, c'est bien le cas. L'homme ne peut pas survivre s'il ne fait pas partie d'un groupe. Eh bien, la joie lui permet de mieux s'intégrer au groupe.
La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Voilà un extrait de l'émission C'est pas sorcier hein, sur France 3 qui était consacré pour ce numéro aux émotions. Alors avant d'en arriver aux réponses que nous apportent nos trois philosophes, hein, Xavier Verhoestraete, un mot encore de leur biographie pour savoir à qui on a affaire. Hein. Friedrich Nietzsche qui naît le 15 octobre 1844 à Röcken en province de Saxe, on est toujours dans le royaume de Prusse. C'est aussi une vie semée d'embûches, c'est la maladie, c'est une errance.
C'est la maladie, c'est l'errance. Il était apatride. Il a été nommé professeur à Bâle. Il a voulu avoir un passeport suisse pour quitter la Prusse d'une certaine manière. Et puis, il n'a jamais obtenu son passeport suisse. Et il est resté simplement avec un document administratif lui permettant, disant qu'il avait été nommé à Bâle. Mais après ça, il était apatride. Et il a... Bon, à cause de sa maladie, il n'a pas pu continuer comme professeur. Et puis par après, il a, je dirais, d'une certaine manière, erré un peu d'hôtel en pension de famille, chez des amis. Donc il était aussi sans domicile fixe. Il n'avait pas une maison chez lui, mais il allait d'un lieu à l'autre, toujours à la recherche d'un environnement qui pouvait lui donner la santé. Donc il avait besoin de soleil, il avait besoin de lumière, il avait besoin de la montagne, il avait besoin de marcher, parce qu'il philosophait en marchant.
Alors, enfin, Henri Bergson, qui vient au monde à Paris le 18 octobre 1859, il sera certes un philosophe reconnu et acclamé, puisqu'il se voit décerner le prix Nobel de littérature en 1927. Il est membre de l'Académie française, professeur au Collège de France. Il n'empêche, la vie ne l'épargne pas non plus. Trois guerres, déjà.
Mais c'est quand même assez dramatique. Hein. Prenons, bon, il y a la guerre des 1870 et la guerre des 1914. À ce moment-là, il était déjà connu, il a publié des pamphlets d'une certaine manière contre l'Allemagne qu'il a regretté par après. Parce qu'il a critiqué la philosophie allemande, la musique allemande, il a critiqué l'Allemagne dans cet effort de guerre, d'une certaine manière, France contre Allemagne. Et par après, il s'est dit, mais c'est bon, j'ai fait une erreur. Et il a contribué à la naissance de l'UNESCO, à la Société des Nations. Donc, il a rencontré le président Wilson. Il était ambassadeur français, comme il était connu aussi, et qui connaissait très bien l'anglais parce qu'il a vécu jusqu'à 9 ans en Angleterre. Donc, il avait aussi toutes ses entrées au niveau anglo-saxon. Et puis, il y avait la guerre 40. Comme il était juif d'origine, eh bien, il était en même temps prix Nobel, il faisait partie de l'Académie française. Donc le régime de Vichy a voulu lui dire « Ah, mais on va vous nommer à rien d'honneur ». Et lui a dit « Pas question, je ne vais pas être à rien d'honneur ». Il a porté l'étoile juive, il a fait la file pour avoir le ravitaillement, il a pris froid et il est décédé d'une pneumonie. Ouais. Donc on voit, c'est quand même assez dur comme environnement.
Alors la joie, donc, on l'a compris, est loin de traduire forcément une agréable et facile vie. D'ailleurs, il faut distinguer les joies de la vie et la joie de l'existence elle-même. La joie de vivre, comment cela se traduit-il chez nos philosophes? Spinoza, donc Nietzsche, Bergson, tout d'abord, Xavier Verhoestraete, il y a chez eux un oui à la vie. Chez Spinoza, par exemple, ça se marque comment, ce oui à la vie?
Eh bien, Spinoza part de la substance, du tout, qu'il nomme en même temps Dieu, la nature, la vie. Et il part de ça et il déduit de ça que finalement nous faisons partie de, nous sommes partie de la substance de Dieu, de la nature. Et il dit à un certain moment, mais nous expérimentons que nous sommes éternels. Et finalement, ça l'amène à acquiescer à la vie. Parce que c'est comme si cette vie s'intégrait dans quelque chose de plus large. Et il y a d'abord un acquiescement à soi-même, et l'acquiescement à soi-même vient d'accueillir le désir avec intelligence. Parce que au centre de son livre principal qui est l'éthique, il y a le désir. Et il dit, voilà, le désir, c'est cet effort pour persister dans l'être, mais c'est une énergie, finalement. Voilà, il acquiesce à l'être, à la vie, à la nature, à Dieu, à la substance, comme partie.
On est là au XVIIe siècle, hein, bien sûr, avec Spinoza. On retrouve aussi ce oui chez Nietzsche. On connaît la volonté de puissance. Enfin, c'est un concept qu'on met souvent en avant en parlant de Nietzsche. Alors, comment allie-t-il tout cela?
Alors, Nietzsche est quand même un fameux personnage. Hein. Mmh. Il y a un personnage qui a traversé la vie de Nietzsche, c'est Dionysos. Et le oui de Nietzsche est, d'une certaine manière, le oui de Dionysos.
Alors, Dionysos, le dieu grec du vin, de l'excès...
Mais c'est ça, le dieu de la danse, de la musique, de... Bon, par rapport à Apollon, qui est la sagesse, la mesure, l'intelligence, la lumière, il y a quelque chose... Dionysos est un dieu qui vient de l'extérieur de la Grèce. Hein. C'est un dieu importé à l'Olympe, d'une certaine manière. Donc, et il y a cette liberté-là. Et cette volonté de puissance qui parvient à s'exprimer de cette manière-là, donc c'est un oui d'affirmation. Oui, malgré tout, à travers tout. Il y a un philosophe actuel, enfin plus actuel, Clément Rosset, qui disait, mais finalement, la joie est paradoxale parce que quand on voit la vie, elle n'est pas facile. Et malgré tout, ou bien elle est illusoire parce qu'on refuse de voir tous les aspects difficiles de la vie, ou bien elle n'est pas illusoire, mais elle est paradoxale. Mmh. Et c'est tout à fait nietzschéen, ça, de dire, eh bien, je vais au-delà de ce qui pourrait me retenir, me contraindre, m'en serrer, et pour avoir quelque chose où ma puissance puisse s'exprimer.
Et chez Bergson, il met la création en avant, Bergson.
Alors, la création, il dit toujours, là où il y a le plus de création, c'est là où il y a le plus de joie. Il fait un lien entre les deux. Mais c'est parce que, pour Bergson, il y a, je dirais, le concept central de Bergson, c'est la durée. C'est la vie qui s'inscrit dans une durée. Et il prend souvent cette image de la mélodie. La mélodie, ce n'est pas simplement un son à un moment donné, mais ça s'inscrit, chaque son s'inscrit, vient d'un passé et va vers un futur. Donc il y a une dynamique à ce niveau-là, et c'est le oui à la mélodie de la vie. Lui, il appelle aussi, il s'est méfié, il s'est dit, bon, je l'appelle élan vital, il a eu un peu peur de l'appeler élan vital, et je comprends, parce qu'on pouvait lui reprocher que c'était trop optimiste et tout ça. Mais il y a cette dynamique-là qui est une dynamique de fond et qui est une dynamique merveilleuse.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de fatalisme qui relie ces trois expériences de la joie?
Alors, je ne dirais pas de... Oui, il y a Nietzsche qui disait « amor fati ». Eh bien, j'ai l'amour de... Mais pas de fatalisme, l'amour de ce qui est. Mm-hmm. D'amour de ce qui est. Donc, « amor fati », et il parlait aussi d'éternel retour. « Ce que je vis, je serai prêt à le revivre... » Encore et encore et encore et encore, parce que je désire de dire oui à la vie. Ce n'est pas pour ça que le fatalisme n'implique pas qu'une passivité. Mmh. Hein, et c'est un oui, parce que c'est le point de départ. Le point de départ, c'est le réel, et on peut travailler à partir du réel et non pas en le niant. Ça ne sert à rien de se mettre dans un fauteuil et de commencer à pleurer. Quoi.
Alors au-delà de ces oui à la vie chez Spinoza, Nietzsche et Bergson, il faut encore creuser hein, pour trouver quelques éléments de leur rapport à l'expérience de la joie. C'est ce qu'on va faire avec Xavier Verhoestraat.
Wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng getrennt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weint.
La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Avec un extrait de l'Ode à la joie de Ludwig van Beethoven. Alors, Spinoza, c'est intéressant, vous disiez bon, son rapport à Dieu, Xavier Verhoestraat, mais il sort aussi le domaine, enfin il sort du domaine, la joie du domaine théologique. Comment s'y prend-il? Je le rappelle, on est au XVIIe siècle avec Spinoza.
Oui, donc la joie était réservée plutôt au domaine théologique. Et la... le bonheur au domaine philosophique. Et finalement, il a pu réunir les deux, et je trouve que c'est un élément très, très important. Et cette joie, enfin, l'ode à la joie qu'on vient d'entendre, c'est quand même extraordinaire. Hein. Il faut bien se dire que l'Ode à la joie, Beethoven, c'est sur un poème de Schiller, Schiller qui a écrit cela après avoir lu l'éthique de Spinoza. Donc il y a un lien d'une certaine manière entre Spinoza et Beethoven et l'Europe. Donc c'est assez extraordinaire. Alors la joie, pour Spinoza, quand il donne la définition de la joie, c'est le passage à une perfection plus grande. Donc c'est une dynamique, c'est un passage. Ce passage, bon, on pourrait se dire la perfection, qu'est-ce que ça veut dire? Mais la perfection pour Spinoza, c'est en même temps la réalité. Donc quand on englobe plus de réel, et non pas simplement l'imaginaire qui va s'imaginer plein de choses, mais la réalité elle-même, le contact avec le réel, et assumer ce contact avec le réel. Si je peux assumer plus de réel, eh bien j'aurai plus de puissance et j'aurai plus de perfection, parce que pour Spinoza, la perfection et la réalité, c'est joie.
Mais comment vivre alors dans la joie, ou vivre la joie, éprouver la joie lorsque l'on est dans des situations de douleur, lorsqu'on a mal, lorsqu'on est malade?
Alors, je crois que ce qui est important, c'est de ne pas identifier la joie aux joies. Les joies, il y a les joies de la vie, bien sûr, et les joies de la vie, Dieu sait si c'est important, hein, que les joies de la vie vont nourrir la joie. Mais la joie n'est pas identifiable aux joies que je peux vivre. Même si on utilise le même terme, c'est à un autre niveau. Il y a Nietzsche qui disait « la joie plus profonde que la douleur ». Que Herzleid, que la souffrance du cœur. Parce que la joie est quelque chose qui se situe à un autre niveau que les joies. Et les joies se situent au même niveau que les souffrances. Parce qu'il y a Nietzsche aussi qui disait, mais joie et souffrance, ce sont frères et sœurs. Et si on nie l'un, on va nier l'autre. Si je refuse de sentir la souffrance, eh bien je vais refuser de sentir la joie aussi, parce que je vais tout simplement refuser de sentir le réel. Mais sous-jacent, je dirais, aux vagues de l'océan, eh bien, il peut y avoir un océan qui les nourrit. Ça, c'est plutôt Spinoza, cette image-là, c'est plutôt une image de Spinoza, c'est moins celle de Nietzsche, mais celle de Spinoza. Il y a un océan qui va nourrir les vagues qui, parfois, ce sont parfois des tempêtes, quoi.
Mais peut-on faire ce discours à des gens qui sont vraiment dans l'extrême tragédie? Enfin, on peut parler de l'expérience des camps, par exemple. Est-ce que ces discours, ces conceptions de la joie de Spinoza, Nietzsche, etc., peuvent être maintenues?
Alors, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'on a des témoignages de personnes qui parle de la joie dans des circonstances tout à fait abominables, enfin, ou bien en phase terminale, qui disent, mais ce que je voudrais vous transmettre, eh bien, c'est que la joie, elle est là. Et je trouve qu'on peut quand même s'appuyer sur ces expériences-là, non pas pour dire, la joie, c'est pas une obligation, hein. La joie, on va pas l'imposer, on va pas dire, vous devez être joyeux. Mais ce qui serait quand même intéressant, c'est d'essayer d'ouvrir la perspective, de laisser une place. Parce que la joie est en même temps un combat. La joie, ce n'est pas quelque chose qui est acquis, ce n'est pas quelque chose qui est... Bon, je vais trouver des gens qui sont de mauvaise humeur et je vais être embêté, et je vais être... Bon, et c'est, à chaque fois, c'est combattre à nouveau pour donner la place à une joie qui s'appuie sur une joie sous-jacente, je dirais, en profondeur.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une positive attitude, mais c'est un peu schématique.
Mais la positive attitude, il y a le danger de donner des recettes, de dire, voilà, vous devez faire comme ça, ou comme ça, ou comme ça, alors que, d'une certaine manière, il faudrait aller plus en profondeur. Et en profondeur, on va trouver quelque chose de positif, mais sans en faire une norme ou sans en faire une recette de développement personnel Un peu superficiel.
Un peu léger, ouais. Alors, vous évoquez le rapport que Spinoza entretient avec la musique. Nietzsche et Bergson aussi ont trouvé la joie dans la musique, ont mêlé les deux.
Ah, mais la musique, et naturellement, c'est tout à fait extraordinaire. Enfin, pour Bergson, je vous ai déjà donné l'exemple de la mélodie où finalement chaque note fait partie d'une mélodie et on voit la dynamique même de la mélodie. Mais c'est aussi parce que c'est quelque chose qui n'est pas spatial et que Bergson se méfie de l'intelligence qui spatialise tout et qui, finalement, on quitte la durée où l'on peut éprouver de la joie. Et pour Nietzsche, la musique, il était musicien lui-même, il a composé de la musique. Il disait, mais la vie sans la musique, c'est une erreur, quoi. C'est pour lui, c'était tout à fait essentiel. C'est quelqu'un, c'est quand même incroyable. Bon, il a été ami de Wagner, et puis il s'est disputé avec Wagner parce qu'il trouvait que la musique de Wagner dansait pas assez. Et puis il a dit, mais Bizet, ça c'est autre chose. Il a vu 25 fois l'opéra Carmen de Bizet. Alors, je ne sais pas si vous avez été 25 fois voir à l'opéra Carmen de Bizet, mais ça prouve combien la musique, pour lui, était quelque chose d'essentiel, parce que c'était le sud qui combattait le nord, d'une certaine manière, la joie qui pouvait combattre les brumes du nord.
C'est la joie face à la beauté aussi, parce que la peinture est importante chez nos trois philosophes également.
Ah, moi, je trouve que la peinture, ça nous emmène. Enfin, chaque fois que je donne des conférences, j'essaye de demander aux personnes si elles peuvent associer un philosophe à un peintre. Et je prendrai ça moi comme exemple. Vous avez Vermeer et Spinoza. Vermeer et Spinoza, c'est la même année, la même ville. Ils habitaient à quelques ruelles de distance. Et quand vous voyez un tableau de Vermeer, c'est en même temps la vie de tous les jours. Reprenez la laitière ou qui verse du lait, tout ça. C'est la vie de tous les jours et c'est l'éternité en même temps. Et donc, ces deux, en même temps, on sent dans la simplicité.
Bah, ça c'est moi. Votre smartphone que vous téléphone. Quoi. Il y a des temps, Monsieur Vongstrat, nous sommes de la joie. Voilà.
Voilà. Il y a encore quelqu'un qui me souhaite un bon anniversaire. Mais bon.
Joyeux anniversaire de nous tous.
Non, mais Vermeer et Spinoza, l'un peut donner. On peut sentir, parce que la joie, c'est pas. Et la philosophie, c'est pas simplement un jeu de concepts, c'est pas simplement penser, c'est aussi apprendre à sentir, et pour cela, prendre le temps, un tableau comme Vermeer. Mais j'ai pris comme exemple Kandinsky pour Bergson, parce que là, c'est le mouvement même. Et c'est quand même un exercice intéressant à faire, quand on a un philosophe, de dire, ou quand on a une pensée, tiens, est-ce qu'on peut y associer l'art? Parce que l'art, c'est Bergson qui disait ça, l'art nous permet de rencontrer le réel d'une autre manière, de nous rendre plus proches. Il y a encore un enregistrement qui existe du temps de Bergson. Et il parle justement de l'art qui nous permet d'entrer en relation avec le réel.
Et y compris la joie face à l'expression assez noire d'une humeur, d'un sentiment. Par exemple, Nietzsche était très fan de Caspar David Friedrich, qui est ce grand représentant du romantisme allemand au 19e siècle. C'est une peinture qui a des thèmes très très sombres, qui parle de la mort beaucoup.
Oui. Enfin, j'ai pris un tableau de ce peintre-là où on voit quelqu'un qui domine un paysage assez chaotique de nuages et de montagnes, parce que Nietzsche marchait en montagne et il y a toujours un chaos en Nietzsche. Dionysos, c'est une lutte, c'est quelque chose qui peut être très chaotique, mais il ne niait donc pas ce chaos, mais il y trouvait une dynamique même. Qui permettait d'exprimer la volonté de puissance qu'il ressentait en lui.
Voilà, trois philosophes face à la joie, Spinoza, Nietzsche et Bergson. Nous sommes avec Xavier Verhoestraat.
Il est 15h40 à Copacabana, 20h40 en Belgique. Greg Van Avermaet entre dans l'histoire du sport belge.
Rech, Olympisch kampioen.
Ik weet het ook nog niet. Fuck.
Oh, wat een wedstrijd.
Best day of my life, I think. Oh, fuck.
Tell us about the final.
Les coéquipiers du Waslandien sont impressionnés par la performance. Le runs de plus font carrément en larmes, emportés par l'émotion. L'émotion ne retombe pas d'un cran lors de la cérémonie protocolaire. La Brabançonne retentit pour la première fois depuis 2008.
13h15, 14h sur la première. Un jour dans l'histoire.
Voilà, c'est la joie du sportif ici en cas de victoire. Hein. Greg Van Avermaet, cycliste belge qui est donc victorieux le 6 août 2016. Alors, on a évoqué beaucoup Spinoza. Revenons à Nietzsche hein, qui disait qu'il faut absolument voir le beau et qui entre 1883 et 1885 publie le poème philosophique ainsi parlé de Zarathoustra. Il évoque trois métamorphoses. Quelles sont ces métamorphoses dans ce texte, Xavier Verhoestraat?
Je trouve que c'est vraiment parlant. Donc, il prend et dit, voilà, l'esprit se métamorphose de trois manières différentes. Il commence par le chameau. Le chameau, c'est un animal qui porte, qui doit, qui fait son devoir, qui essaye de bien faire et qui est toujours chargé de plein de choses. Et puis, à un moment donné, il y a le lion qui dit, non, moi, c'est terminé avec ça. Le lion qui rugit et qui dit... Je ne veux plus devoir, je veux vouloir. Alors, il casse tout, d'une certaine manière. C'est la révolution. On va enlever toutes ces limites qu'on se met dans sa vie. On va le refus de porter pour s'affirmer. Mais s'affirmer, c'est bien. Mais ça, ce n'est pas encore jouer. Et puis, la troisième métamorphose, c'est l'enfant. Le jeu de l'enfant, l'innocence de l'enfant qui ne pense, qui est tout à son jeu, hein, qui ne doit plus rugir, qui ne doit plus porter, mais qui doit, j'allais dire presque gazouiller. Un enfant qui joue, c'est quelque chose de merveilleux parce qu'il est tout à son jeu, il est lui-même. En découverte de toujours du neuf, quoi.
Et d'ailleurs, en parlant de gloire, là, on écoutait le contentement, bien sûr, d'un sportif face à la victoire. La gloire, selon Bergson, c'est pas ça la joie.
Non, la gloire, c'est quand on en a besoin. Mais finalement, quand on est vraiment créateur, eh bien, la gloire, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est sa création. Il donne des exemples. Il dit, mais un chef d'entreprise, eh bien, s'il a besoin de la gloire, c'est qu'il n'est pas tout à fait sûr de sa créativité même, parce qu'autrement, il est très content, c'est toujours bon à prendre, mais il n'en a pas besoin parce qu'il sent qu'il est dans son dynamisme propre.
Et se réjouir de la gloire, au fond, ce n'est pas être très sûr de soi-même.
Oui, mais bon, on peut se réjouir, ça ne fait pas... je dirais... On peut profiter de tout, mais alors qu'est-ce qui se passe si on ne l'a pas? C'est ça qui compte. C'est si on a besoin de ça, alors naturellement c'est un piège. Si on n'en a pas besoin et qu'on le reçoit, eh ben, tant mieux.
Alors la pandémie que nous connaissons, on a commencé comme ça avec vous, Xavier Verhoestraat, la crise sanitaire, les autres crises, est-ce que l'après, vous pensez que dans l'après, il y aura d'autres manières d'éprouver la joie. On va réajuster cette expérience.
Mais bon, la pandémie, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Et je pense surtout aux jeunes pour lesquels c'est extrêmement difficile. Mais il peut y avoir des aspects positifs. Par exemple, se dire, tiens, mais est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un peu plus d'intériorité? Simplement de courir toujours dans tous les sens et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de vivre autre chose? Plus d'intériorité et de trouver à l'intérieur de soi une source de joie.
On va se reporter à votre ouvrage, hein, La joie, une spiritualité philosophique, qui est sorti aux éditions Acarias. Et puis il y a ces visioconférences, donc on peut trouver le lien sur le site des Matins de la Philo. Matin Philo, hein, c'est à Bruxelles. Oui. Et il y a toute une série de visioconférences que vous donnez, que vous avez mis en ligne. Et d'ailleurs, vous avez appris à manier l'outil, Xavier Verhoestraat, c'est une source de joie, ça.
Ben oui, on apprend toujours du neuf.
Voilà, restez avec nous, on va se retrouver juste après les informations de 14h. On va poursuivre notre voyage en Californie à l'époque de la ruée vers l'or. C'est notre partenaire, Joanne Ducey, de la première en Suisse, qui nous emmène revisiter cette ruée vers l'or avec Annick Foucrier, qui est professeure à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Le rêve californien » aux éditions Belin.